Nous sommes venus à l'occasion justement de ce synode sur l'Amazonie, étant donné que nous avons partagé l'expérience du réseau ecclésial panamazonien, le REPAM. Il y a eu une délégation du REBAC qui a été au Brésil pour voir justement les initiatives que ce réseau ecclésial a prises pour justement la défense, voyez, de l'Amazonie en tant que bassin. Et nous sommes en train de nous organiser actuellement au niveau du réseau, disons, du bassin du Congo, pour essayer d'abord, d'une part, de sensibiliser et l'Église, et la population, et les responsables pour la défense de cet écosystème et toute la richesse de la biodiversité qui caractérise justement le bassin du Congo. Et c'est dans ce sens-là que nous sommes présents ici, parce que nous avons pensé qu'à l'occasion de ce synode, le réseau ecclésial du bassin du Congo doit participer d'une manière ou d'une autre, rien que pour sensibiliser aussi et pour faire connaître un peu ce que je pourrais appeler l'espérance, les espoirs de ce bassin.
Monseigneur, vous voulez dire que l'expérience de l'Amérique latine peut enrichir évidemment votre réseau pour la protection de la forêt du bassin du Congo, et ça peut aussi être vice-versa?
Vice-versa. Je crois qu'ils ont pris l'initiative, ils ont commencé, et à nous aussi d'apporter un peu ce que nous essayons de faire comme expérience. Parce que je peux dire que l'expérience n'est pas la même, et la situation objective du bassin du Congo n'est pas tout à fait la même que celle du bassin de l'Amazonie. Et je crois que l'échange des expériences peut enrichir de part et d'autre.
On s'est plaint beaucoup, que ce soit en Amérique latine, que ce soit aussi en Afrique, de l'exploitation abusive des forêts. C'est un problème commun, connu de tous. On en parle, mais on ne trouve pas de solution. Mais que pensez-vous vraiment comme alternative pour trouver des solutions à cela? Puisque le problème se situe à plusieurs niveaux, au niveau des multinationales, au niveau des gouvernants. Et la population locale se trouve un peu faible pour défendre ses propres terres, pour défendre ses propres intérêts. Comment trouver une solution durable à cela?
Mais la solution durable, c'est d'abord l'interpellation réciproque. Interpellation des populations elles-mêmes d'ailleurs, pour que les populations prennent conscience de leurs droits. Parce que pour le moment, les populations sont beaucoup plus victimes. Et victimes de qui? Victimes de ceux qui exploitent le bois. Or, pour prendre par exemple l'exemple du Congo, c'est ahurissant. Ça donne même des vertiges de voir le nombre de grumiers, donc de véhicules qui portent des grumes, qui comportent des billes de bois qui passent. Et à la limite, cette déforestation que je pourrais appeler acharnée est un véritable danger pour l'avenir de notre pays, le Congo. Que faire? Nous avons à interpeller nos responsables politiques, parce que sont eux quand même qui organisent et qui laissent s'organiser ce genre d'exploitation. Il y a d'abord cela. Il y a aussi à sensibiliser les populations elles-mêmes pour qu'elles prennent conscience aussi de leurs droits. C'est un peu plus difficile, mais cela, il faut que nous le fassions. Et il y a aussi à sensibiliser l'Église pour que partout où elle se trouve, elle puisse être aussi comme un élément de défense des pauvres. Or, là, l'expérience montre que les pauvres sont vraiment écrasés. Et cela, bien sûr, c'est la déforestation, mais il y a aussi l'exploitation des mines, l'exploitation minière. Au Congo, par exemple, la surface qu'occupe la forêt, elle est importante. Elle est à peu près de 65% du territoire, et ce qui représente à peu près 22,5 millions d'hectares sur tout le Congo. C'est énorme. La déforestation, il faut le reconnaître aussi, il y a bien sûr les exploitants, ceux qui viennent de l'extérieur, et c'est la partie la plus importante. Mais il y a aussi la déforestation qui est due aux populations elles-mêmes, du fait de leur genre de vie. Aujourd'hui, je vois par exemple chez moi, dans le diocèse de Kinkala, quand nous faisons la route Kinkala-Brazzaville, eh bien, on est comme choqué par le nombre de véhicules qui transportent le bois de chauffe, d'une part, et le nombre de véhicules qui transportent aussi le charbon. Et tout cela est cause de la déforestation.
Mais justement, que faire pour que la population ne puisse pas dépendre des bois de chauffe ou de charbon?
Mais cela suppose justement qu'on leur donne d'autres possibilités pour pouvoir résoudre leurs problèmes. Et le problème, par exemple, de la cuisine, etc.
Surtout ça.
C'est surtout cela, finalement. Et ça, c'est aux responsables politiques de pouvoir proposer justement des alternatives par rapport à ce que je pourrais appeler à ce genre de vie qui est comme une sorte d'enchaînement dans la déforestation qui s'accomplit aujourd'hui.
Est-ce que vous avez aussi fait allusion à la place de la communauté internationale pour aider justement à réduire la déforestation? Je prends l'exemple du concours de la communauté internationale pour la défense, par exemple, des ivoires pour les éléphants. Et ça devient un problème qui concerne un peu tout le monde, qu'on doit arrêter à faire le commerce, par exemple, d'ivoire, à vendre des objets d'art en ivoire. Et ça, ça essaie un peu d'arrêter la vente ou, disons, le braconnage des éléphants. Est-ce qu'il n'y a pas aussi ce niveau-là de chercher à réglementer, par exemple, la vente de bois? Ça réduirait un peu la déforestation abusive.
En fait, il faut dire qu'au niveau international, il y a déjà une sensibilisation. Par exemple, avec la COP 21, il y a comme une sorte d'institutionnalisation de ce qu'on appelait le fonds bleu au niveau de l'Afrique centrale, pour essayer seulement de veiller à ce travail, d'arrêter la déforestation et puis d'assurer, on peut dire, comme la protection de l'écosystème. Mais quelle est l'effectivité de ce fonds bleu? La question mérite d'être posée. Et nous avons encore à chercher dans ce sens-là. Mais toujours est-il que c'est en direction de la sphère internationale que nous avons aussi à travailler. Si vous voulez, il y a plusieurs tableaux sur lesquels nous avons vraiment à nous mobiliser. Il y a le tableau national et à l'endroit des responsables. Il y a le tableau national à l'endroit des populations. Et il y a le tableau international. Le travail est vraiment important. Et bien sûr aussi, le tableau au niveau ecclésial aussi. Nous avons vraiment à prendre conscience de nos responsabilités pour défendre le droit des pauvres.
Quand vous parlez du niveau ecclésial, moi je viens spécialement à l'aspect pastoral. Comment la déforestation a un impact, par exemple, dans votre diocèse, ou mieux aussi dans votre pays, sur la pastorale des évêques ou des prêtres?
Il y a un travail qui se fait, mais c'est encore un travail très timide, dans ce sens de conscientiser les populations au nom, justement, du respect de la création, conscientiser les populations pour qu'elles respectent, je peux dire, ce que le Seigneur lui-même a donné. Mais pour cela, il faut leur proposer des alternatives, justement. Et actuellement, par exemple, dans les écoles, au moins les écoles de l'Église, il y a toute une pastorale des enfants pour planter des arbres. Donc systématiquement, dans toutes les écoles, il y a comme des périodes qui sont choisies, qui sont décidées pour que les enfants plantent des arbres systématiquement. Et je crois qu'on va voir un peu ce que cela va donner au cours de cette année. Mais voilà un peu comme un exemple qui a été choisi. Il y a aussi des coopératives qui sont mises en place pour la défense et la conservation des écosystèmes. Il y a une coopérative qui est née dans le nord du pays, à Ouesso, une coopérative qui est née dans le sud, à Komono, et petit à petit comme ça. Ce sont des initiatives qui se prennent au niveau de l'Église. Mais c'est encore peu par rapport à tout ce qu'il y a à faire. Voilà un peu le défi dans lequel...
Oui, ça peut être peu, mais c'est quand même un pas en avant. Mais quel est le rapport, par exemple, avec ces initiatives et les coopératives? Est-ce qu'ils peuvent aussi avoir un mot à dire sur l'exploitation des forêts en disant comment est-il possible que nous, on essaye de planter des arbres, mais ce sont deux autres sociétés qui viennent les exploiter, dans ce sens de demander aussi aux mêmes sociétés d'avoir une politique de compensation en disant, par exemple, quel est le nombre de bois coupé par telle société pour donner la possibilité à ces coopératives pour planter autant d'arbres qui ont été coupés?
Justement, en fait, cela existe. Il y a des lois qui existent dans ce sens-là.
Qui ne sont pas appliquées.
Qui ne sont pas du tout appliquées. Et donc, le problème, c'est aussi l'organisation de la société civile pour qu'elle fasse vraiment pression sur le pouvoir politique afin que cela puisse être effectif. Mais c'est un combat de longue haleine.
Un combat de longue haleine, Monseigneur. Est-ce que c'est le mot de la fin ou vous avez quelque chose à ajouter?
Ce qui est ajouté, c'est tout simplement, je peux dire, de se mettre debout et d'espérer envers et contre tout. Et comme dit saint Paul, envers et contre toute espérance. Je crois que le travail est énorme, mais il faut, comme le dit saint Paul d'ailleurs à Timothée, à temps et à contre-temps, que nous puissions vraiment insister là-dessus. Parce que c'est le salut de toute la planète qui est en jeu.